Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission du samedi consacrée à la culture et à la littérature, une émission présentée par Anna Kubishta. Rencontre avec un auteur de théâtre burkinabé, Aristide Tarnagda, qui était récemment à Prague dans le cadre du festival Afrique en création. Puis nous évoquerons la relation amoureuse, passionnée et complexe de l'écrivain Karel Čapek et de sa muse Viera. Bonne écoute de ce programme. D'abord comédien, Aristide Tarnagda se lance très vite dans l'écriture. Né en 1983 à Ouagadougou, il suit une formation de sociologue pour finalement se tourner vers sa passion, le théâtre. Il est l'auteur de Façon d'aimer ou encore de la pièce Exil 4, mise en scène par Eva Doumbia et présentée à la Comédie-Française en 2007. Depuis 2014, il dirige le festival Les Récréatrales, le noyau central de l'activité théâtrale au Burkina Faso. Il présentait sa nouvelle pièce Moussika à l'édition 2016 du Festival Afrique en création à Prague. Sélectionnée pour le prix RFI 2015, la pièce d'Aristide Tarnagda, Moussika, met en lumière la situation désastreuse que subit la population congolaise depuis des décennies pour le contrôle des minerais, et précisément du coltan, élément indispensable à la fabrication des téléphones portables. L'auteur, qui ne se pense pas comme engagé, mais plutôt comme un poète, déclare dans une interview en 2013 que le dramaturge ivoirien Kofi Kwaole lui a donné la force d'écrire. Il a expliqué pourquoi au micro de Capucine Jaffé.
Culture sans frontières.
Je crois que dans toute chose dans la vie, vous rencontrez quelqu'un qui par les mots, même les plus simples, qu'il vous dit, vous donne la force de continuer ou de ne pas continuer. Et Kofi, ça a été ça, le fait que moi je sois un peu, comment on va dire, que je balbutie comme ça par rapport à l'écriture, que je ne fais pas confiance à ce que j'écris, que c'est un objet complexe par rapport à ça, et que lui arrive, auteur confirmé, tout ce que vous voulez, et il dit, tu es un auteur, voilà, tu peux écrire. Il m'a donné de la confiance, il m'a ouvert, on va dire, le chemin pour que je puisse me dire, oui, tu peux aussi devenir un écrivain, tu peux prendre la parole. Mais ce sont ces mots rassurants, donnant de la confiance là, qui a été cette force dans un pays où, pour discuter, pour parler, ça demeurait toujours ennemi, tout à l'impression que c'est quelqu'un qui devait avoir 10 000 cerveaux, enfin voilà, c'est quelqu'un de particulier. Et quand j'ai ce mec en face de moi, avec toute simplicité, qui admire presque ce que j'écris, voilà, ça, c'est cette force-là qui m'a donné.
Pensez-vous que le théâtre burkinabé a une écriture spécifique, traite de sujets en particulier?
Je crois que tout théâtre de n'importe quelle géographie que ce soit est spécifique, en ce sens que la source d'inspiration vient de ce lieu spécifique de ce monde, et que donc notre théâtre, le théâtre burkinabé, part d'abord et s'enracine d'abord de là où nous vivons, de cette terre rouge, de ce pays où le courant se coupe, où il n'y a pas de l'eau, où les gens sont extrêmement gentils et extrêmement politiques, voilà, c'est le Burkinabé, quoi, je sais pas comment dire ça. Voilà, c'est, donc pour moi, il a forcément son visage, mais maintenant, je crois que c'est aux autres de le voir. Parce que c'est difficile de se regarder soi-même, et je pense que les autres sentent et voient la particularité de notre théâtre par rapport au leur, et je le vois aussi parce que je regarde les autres. Voilà, je leur dis qu'on existe parce que les autres existent, donc je crois que on a une particularité. Parce que faire du théâtre dans des cours, faire du théâtre en plein air comme ça, faire du théâtre dans un pays où va dire l'État, le ministère, enfin, c'est pas important pour les gens. Mm-hmm. Voilà, ça te développe forcément une identité.
Quelle est la place du théâtre dans la vie culturelle au Burkina Faso?
Alors, elle a une place, on va dire, j'ai envie de dire centrale, quand même, parce que le théâtre, c'est un carrefour pour les autres arts. C'est-à-dire que rarement la danse nous appelle, mais nous on appelle très fréquemment la danse. Rarement la musique appelle le théâtre, mais nous on appelle fréquemment la musique. Rarement le cinéma nous appelle, mais nous appelons beaucoup de cinéma, où le cinéma vient puiser en ce qui concerne les comédiens dans le théâtre. Donc je pense qu'on est un peu le poumon, comme ça, dans le paysage culturel du Burkina, et qu'il y a une coexistence. Moi, par exemple, j'ai travaillé beaucoup avec des musiciens. Quand j'étais à Oin en 2013 à Avignon, il n'y avait qu'un seul acteur dans ma pièce. Mm-hmm. Le reste, c'était des musiciens. Donc, je pense que, si je puis le dire ainsi, le théâtre rassemble et regroupe et fédère les autres arts.
Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un auteur engagé avec cette pièce Musica, d'une certaine façon?
Je préfère un théâtre engageant, voilà. Mm-hmm. Parce que c'est compliqué, hein, comme c'est compliqué, comme ce n'est pas pour je m'engage pour quoi, contre qui, je ne sais pas. En tout cas, j'expose cette situation qui me semble complètement inhumaine et anachronique sur un plateau de théâtre, pour que chacun de nous réfléchissions à comment s'en sortir de là, pour que chacun de nous se sente responsable de ce qui se passe au Congo. Parce que nous sommes quand même victimes de beaucoup de choses. Hein. L'Afrique est victime de poncifs, de préjugés. Et puis, quand même, c'est un moment donné, les gens ont intégré, et même les Africains eux-mêmes, et c'est le plus grave, ont intégré que nous sommes nés, nous sommes condamnés aux guerres, à la sauvagerie. Personne ne fait un lien entre cette guerre-là et puis le capitalisme. La vie de consommation que nous menons aujourd'hui. Donc moi, en tant que poète, ce qui me semblait intéressant, c'est de tisser des liens entre ces pagailles, ces sauvageries, ces guerres, ces viols qui se font en Afrique, et puis la façon de vivre d'aujourd'hui, le fait qu'on veuille avoir 10 000 portables, tablettes, on veuille machin, eh bien ça a des conséquences sur des vies à 10 000 km de chez soi. Mm-hmm. Donc qu'on soit africain ou pas, d'ailleurs, la faute ne revient pas aux Occidentaux. C'est pas ça. La musique, c'est pas écrit pour dire ça. La musique, c'est écrit pour dire attention, notre façon d'être au monde est important. Voilà. Plus que notre façon d'avoir. Parce que c'est notre façon d'être, de notre façon d'avoir qui nuit sur notre façon d'être, qui fait que des gens sont réduits aujourd'hui, sont chosifiés, ce qui se passe au Congo est innommable. Mais vraiment, je me demande même s'il y a encore des mots pour le dire. C'est pour cela que j'ai tenu à travailler avec des Congolais sur cette pièce, parce que voilà, ils ne feront pas du théâtre. Voilà, ils vont être tout simplement, ils vont dire les choses, ils l'ont, puisqu'ils ont grandi, parce que ça dure depuis les indépendances. Donc voilà, pour revenir à la question de l'engagement, ben, si c'est être engagé, oui, mais je pense que faire du théâtre, c'est s'engager tout court. Voilà, faire n'importe quoi, soigner des gens, c'est s'engager. Tout devrait être dans ce sens-là.
Est-ce que c'est un accomplissement d'être représenté à l'étranger?
Un accomplissement
personnel, est-ce que ça...
Non, j'en suis heureux. j'ai quelque part une fierté de pouvoir être joué à l'étranger, mais j'en suis plus heureux plutôt que de la fierté, parce que de plus en plus, voilà, nous sommes connus par nous-mêmes. C'est-à-dire, je parle de l'Afrique, je parle du Burkina, parce que voilà, c'est une parole, c'est la mienne que j'envoie, et je dis aux autres, me voici. Voilà, regardez-moi tel que je suis, et parce qu'on déconstruit aussi les clichés, les images qui sont construites depuis longtemps, parce que nous n'étions pas là. Parce que nous n'occupions pas les lieux, parce que notre parole n'était pas invitée, n'était pas véhiculée, ne voyageait pas. Donc, de ce point de vue, j'en suis heureux parce que je suis là et je parle de mon pays, de ce qu'on fait et de ce qu'on voudrait être. Je me définis, c'est-à-dire qu'on ne me définit plus par rapport à ma place dans le monde, par rapport à ce que je suis dans le monde, par rapport à qui je devrais être, par rapport à mes rêves, à mes projections. Donc, de ce point de vue, c'est très important parce que le problème aussi des choses qu'on vit au quotidien est lié au fait qu'on se méconnaît de par le monde, que c'est une volonté politique justement que les peuples, je parle des peuples, ne se connaissent pas, ne se rencontrent pas, et que finalement, ils se disent pas, finalement, il est comme moi. Voilà, il est un être humain, tout pour. Donc, le fait même d'être présent dans la ville et de circuler, c'est pas pour rien qu'il y a les frontières. Les frontières, elles sont faites pour nous empêcher de nous. Voilà. Mais le fait que moi je puisse arriver là, parler aux gens, manger la nourriture d'ici, et puis après, c'est un accomplissement de ce voyage, de ce point de vue, que ma poésie puisse être entendue et partagée là, ça c'est très important.
Est-ce que vous avez des projets d'écriture?
Oui, j'ai un projet en cours qui s'appelle, c'est une commande qui m'est faite par le metteur en scène Moïse Touré, franco-ivoirien, Afrique 2147, et si l'Afrique disparaissait, c'est-à-dire qu'il avait fait dans un premier temps un projet, je crois qu'il y a une dizaine d'années, qui s'appelait Afrique 2147, parce que l'ONU avait prédit que l'Afrique commencerait à se développer à partir de 2147. Voilà, c'était pour nous une phrase scandaleuse. Je ne vais pas dire des gens en disant déjà que en fait vous allez commencer à bien vivre en 2147. Donc voilà. Et là, on rébellote pour une deuxième étape de ce projet, et avec une question: et si l'Afrique disparaissait? Donc ça c'est un projet d'écriture le plus imminent que j'ai. Après j'ai un auteur, donc j'ai forcément deux, trois. Je viens d'en finir un sur Thomas Sankara qui s'appelle La patience des morts, qui va être lu au mois de juillet, le 20 juillet à Avignon, dans le cadre de cycle de lecture et fil.
Après cette rencontre avec le dramaturge burkinabé Aristide Tarnagda, on passe tout de suite à notre émission littéraire en deuxième partie d'émission en compagnie de Vassa Richter.
Rencontre littéraire. Je dois vous voir. Si vous ne venez pas, ce sera terrible. Je ne saurai quoi faire. Écrit Karel Čapek au début des années 1920 à Věra Hrůzová. La lettre adressée par un des plus grands écrivains tchèques à cette jeune fille qui lui a fait tourner la tête seront recueillies beaucoup plus tard dans un livre. Ce témoignage sur une passion aussi violente que compliquée paraît ces jours-ci en français aux éditions Cambourakis sous le titre de « Lettre à Viera ». Au micro de Radio Prague, le traducteur Martin Danesch présente ce livre ainsi que Karel Čapek et sa muse Viera. Qui était Věra Hrůzová? Quel rôle a-t-elle joué dans la vie de Karel Čapek?
Věra Hrůzová était un amour secret de Karel Čapek. Ils se sont connus lors d'un salon littéraire à Prague en 1920 ou 1921. Et puis, ils ont entretenu une relation. Et cette relation a eu un pendant. Ils ont échangé des lettres. Karel Čapek lui a adressé une petite centaine de lettres qui ont été publiés beaucoup plus tard en tant que livre. Et en fait, ça retrace la relation entre le célèbre écrivain et Věra Hrůzová. Mais on peut trouver aussi dans les lettres de Čapek ses réflexions sur la création, sur le livre qu'il était en train d'écrire.
Qu'est-ce que donc ces lettres nous apprennent sur l'auteur de ces lettres et sur sa vie sentimentale?
Donc, je commencerai par sa vie sentimentale qui était malheureuse. Cette relation s'est soldée par un échec parce que malgré une passion que l'on sent depuis les lettres de Čapek, elle était de courte durée. Et donc, il y a eu probablement une incompatibilité d'humeur. Un écrivain qui passe son temps à écrire et une jeune fille qui veut vivre, qui veut juste vivre. C'était pas très compatible.
Mais sa lettre couvre quand même une assez longue période entre 1920 et 1931, je crois.
Vous avez raison. Ça s'arrête en 1931. Donc, ça couvre quand même une période assez longue. Mais une grande majorité de ces lettres couvrent plutôt une période assez courte. Ce sont les années 1921, 22, 23, où la relation entre Čapek et Věra était la plus intensive. Et après, surtout la seconde moitié des années 20, les lettres se raréfient, elles deviennent un peu plus formelles.
Croyez-vous qu'il s'agit de l'ensemble des lettres adressées par Karel Čapek à Věra Hrůzová? Cette correspondance n'a pas été censurée dans une certaine mesure par la destinatrice?
C'est un objet de spéculation. On ne sait rien là-dessus. En fait, les lettres sont présentées telles quelles et il y a même des originaux. Donc, je pense que la censure ne concerne pas le contenu des lettres qui sont connues. Par contre, il est possible qu'il y a des lettres qui manquent parce qu'il paraît que Věra Hrůzová a brûlé quelques lettres devant ses enfants, c'est ce qu'il semble à moi, à ses enfants ou à ses petits-enfants, qu'il s'agissait des lettres les plus délicates du point de vue, et peut-être un peu érotiques aussi.
En septembre 1923, Karel Čapek a écrit à Věra une lettre passionnée dans laquelle il insère un passage en français réagissant au fait que Věra prépare sa lingerie de mariage, je cite: « Votre linge endiablé, le voile impudique qu'une nuit un autre déchirera, ah, c'est trop pour moi. Et vous, insensé, vous me parlez de ce qui n'est plus pour moi qu'un rêve furieux et impossible. Je vous hais. » Dans quelles circonstances a-t-il écrit cette lettre?
Déjà, ce passage est très beau. Moi, j'étais content d'avoir pu tomber sur ce passage. Je me disais, j'étais payé pour la traduction de ce paragraphe, alors que je n'ai rien fait. Bon, c'est juste, je ferme la parenthèse. Ce passage-là a été écrit, en fait, au moment où, peu après que Čapek a appris la nouvelle de fiançailles de Věra avec un autre homme. Donc, il était très déçu. Malheureux même, et pendant quelque temps il gardait une certaine réserve, Et c'est à ce moment-là que c'est un sentiment, sa douleur a éclaté. Et il a écrit donc ce passage en français. Et il y a encore, juste après, un petit paragraphe où il dit « Voilà, je vous écris ça en français parce qu'en tchèque, je l'aurais écrit beaucoup plus vulgairement que ça. »
Dans ces lettres, il y a de nombreux passages sur le travail littéraire parce que Karel Čapek les a écrites dans la période où il crée quelques-unes de ses œuvres majeures. Qu'est-ce qu'il révèle dans ses lettres sur ses inspirations et sur sa méthode littéraire ?
Là, il faut parler du roman Krakatit parce que c'est dans ce roman où il s'est inspiré directement de Věra Hrůzová pour créer un personnage. Et c'était la princesse du roman, la princesse Vili, où Věra Hrůzová lui a servi de modèle. Et donc lui, en écrivant les passages ou les chapitres où la princesse Vili a un rôle important, alors il consulte Věra, il lui fait lire ces brouillons, ces chapitres-là, il demande à Věra son avis, il veut qu'elle la commente, et puis il commente lui-même le comportement de ce personnage en disant plus ou moins ouvertement ce que c'est elle, en fait, que c'est Věra Hrůzová.
Le style de ses lettres est souvent assez décontracté, tantôt intimiste, tantôt jovial, plein d'humour, de néologisme et de mots rares. Était-ce difficile de le traduire en français ? Quels ont été les principaux obstacles auxquels vous vous êtes heurté ?
C'était difficile parce que c'est du Čapek, donc c'est vraiment, même si c'est des lettres, c'est de la littérature. Et en même temps, c'était un travail joyeux. C'était vraiment une joie de pouvoir traduire Karel Čapek en français. J'étais content, j'étais même fier, je dois l'avouer, de pouvoir faire ce travail. Et c'était très, très enrichissant pour moi. Ce qui était difficile, c'est peut-être de trouver une version finale qui me convienne, où je sens que ça sonne bien en français et que ça reste Čapek. Bon, c'était ces deux objectifs que je m'étais fixés. Et donc, j'espère avoir réussi à tenir ce pari.
Et dans cette correspondance manque le nom d'une femme qui joue un rôle très important dans la vie de Karel Čapek et qui allait devenir sa femme, Olga Šenflugová. Peut-on dire que Karel Čapek hésitait entre Věra et Olga ?
Oui, là, ça a bien été le cas, parce qu'il a connu Věra Hrůzová et Olga Šenflugová pratiquement à la même époque. Et donc, il a été probablement déchiré dans son cœur entre ces deux femmes. Et on ne connaît pas bien le détail, on ne sait pas très bien comment ça s'est passé. Et il est probable que pendant les mois, les débuts des années 20, où il a écrit des lettres d'amour à Věra, où ils ont, si on peut dire, entretenu une relation, peut-être il avait interrompu la relation avec Olga. Et il l'a reprise après que Věra lui a annoncé la nouvelle de ses fiançailles. Donc, on peut dire que du point de vue de Věra, du moins, c'était elle qui était la première, c'était l'élu du cœur de Karel Čapek.
Pourquoi les lecteurs français devraient lire la lettre de Karel Čapek à Věra Hrůzová ?
La première raison, c'est que c'est un très beau texte, c'est du Čapek pur, même si ce n'est pas une œuvre littéraire, c'est toujours de la littérature. Donc c'est un beau texte, c'est bien écrit. Et en plus, ceux qui s'intéressent au personnage de Karel Čapek, ils vont apprendre beaucoup de choses sur sa vie, sur les questions qu'il se posait, aussi sur ses sentiments. Et je pense que Čapek, en tant que personne qui a ses amours, qui a un certain érotisme, c'est quelque chose d'exceptionnel.
C'est la fin de cette émission en français sur Radio Prague. Merci de l'avoir suivi. Dès dimanche, retrouvez notre émission musicale consacrée cette semaine au groupe Mniaga à Jdiorp. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tous ces sujets sur notre site internet, le www.radio.cz, mais aussi sur les réseaux sociaux. Rendez-vous sur Facebook et Twitter. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.
Thank you.